Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec la victoire des Clermontois. C'était ce vendredi en challenge européen et c'était face à Édimbourg, les Écossais. Rencontre que l'on va débriefer dans ce podcast. À mes côtés aujourd'hui, Didier Cros et Arnaud Clerc. Bonjour messieurs.
Salut Greg, salut Didier.
Bonjour Greg, bonjour à tous, bonjour, bonjour Arnaud, pardon.
Bonjour, bonjour à toutes.
Je crois que ça commence par un en avant. Allez hop, c'est parti, mêlée. Juste la question aujourd'hui qui va nous animer, c'est est-ce que Baptiste Jauneau doit intégrer le groupe France ? Question que l'on va se poser juste après avoir débriefé, bien sûr, la rencontre des Clermontois face à Édimbourg. Vous y étiez vendredi soir au stade Marcel Michelin. Didier, les Clermontois ont fait le job, on va dire.
Oui, ils ont fait le job d'un point de vue strictement comptable. Bon, ils ont fait le plein, donc pour la suite, c'est une bonne chose. Cette rencontre, elle n'a pas donné toute entière satisfaction par rapport au contenu. N'empêche qu'il y a eu quand même quelques bons motifs de satisfaction, néanmoins, notamment au niveau individuel, plus que collectif, à mon avis, avec des retours intéressants. Bon, on parlera tout à l'heure celui de Jauneau, mais celui de Lavanini aussi. Donc, des joueurs sur qui clairement on va pouvoir compter dans les prochaines semaines.
Arnaud, les Clermontois qui sont imposés 31-18 avec un doublé de Newsom, un essai de Moala, un essai de Bibiziou.
Oui, c'est ça.
C'est ça, oui. Voilà. C'est facile, moi je regarde la fiche technique, c'est très simple.
C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec Didier, il y a eu des bonnes prestations individuelles. C'est un match qui a eu beaucoup de mal à se décanter. Il y a eu 0-0 pendant une bonne demi-heure de jeu. Des Écossais qui étaient pénibles sur les zones de ruck, des Clermontois qui ont eu du mal à se mettre dans l'avancée. La première mêlée, je crois que les Clermontois avaient été pénalisés et après ils ont réglé la mire pour être totalement dominants là-dessus. Et dans les prestations individuelles, j'ai envie aussi de rajouter celle de Pitagus Ovakula, c'était sa première titularisation. Au Michelin cette saison et il a montré que
c'est beau de l'avoir passé sans en avant, bravo Arnaud.
Et il a montré que bah ouais il était une solution très crédible au poste de troisième ligne. C'est Christophe Furieux qui disait après le match qu'il a été dans l'avancée et qu'il a été immédiatement dans l'avancée, qu'il a été eu un impact physique déterminant et tout de suite quoi. Il n'a pas attendu la demi-heure de jeu pour démarrer quoi. Donc ça a été très positif cette première pour Pitagus Ovakula.
Bravo Arnaud, tu le replaces derrière, ouais, bravo.
Le
tic-tac. Juste la question, le point noir, enfin en tout cas l'interrogation, c'est ce début de deuxième mi-temps avec des Clermontois qui prennent quelques points quand même alors qu'ils menaient assez facilement. C'est inquiétant. Qu'est-ce que ça vous inspire ce moment-là?
Bah, on en revient toujours un petit peu au problème récurrent de cette équipe qui encaisse beaucoup d'essais quand même. Hein. Là, ouais, ils ont encore pris deux. Et ils les prennent assez facilement, ce qui avait fait râler déjà Christophe Furios en disant nous, il nous faut beaucoup de temps de jeu pour marquer un essai. Et nous, en revanche, on prend des essais un peu trop facilement. Et là, c'était un peu encore le cas, bon, sans conséquences fâcheuses. Mais même s'ils ont fait un bon match défensivement, il y a des séquences où ils en prennent effectivement un peu trop facilement de ces essais-là.
Effectivement, les Clermontois qui ont, par le biais de leur entraîneur, réalisé quelque chose d'assez, alors je ne sais pas si on peut dire inédit, mais en tout cas assez exceptionnel, c'est le changement des 7 joueurs d'un coup.
Ouais, ça a apporté un vrai dynamisme. Les entrants, alors on pourra les appeler les entrants, les remplaçants, les finisseurs.
J'adore les finisseurs.
Ce que vous voulez. Mais ouais, ils ont apporté vraiment, vraiment quelque chose. On va parler de Baptiste Jauneau tout à l'heure, mais il y a eu aussi Bibi Bizivu qui a été très bon mêlé et aussi très bon surtout dans le jeu courant. Sur les premiers mètres il avance à chaque fois. Qui est-ce qui est rentré encore, qui a fait une bonne
Tisseron
entrée
a fait, Tisseron ouais. a fait été déterminant sur le deuxième essai de Newsom.
Ouais,
il fait la dernière passe, ouais. Il fait une passe difficile et la bonne passe quoi, la passe décisive. Fouissa qui était rentré un peu avant parce que Rito quelques minutes commotion, avant parce que Rito était sorti sur commotion et lui aussi a fait une entrée intéressante
et Jules Plisson aussi j'ai trouvé pas mal pour sa longueur de jeu au pied c'était
tout à fait, ouais. Oui, ce grand turnover là, a amené un peu de sang neuf et a impulsé un peu d'enthousiasme une équipe qui était encore un petit peu, peut-être aussi qu'ils ont profité du travail effectué auparavant, du travail de SAP un peu plus dans l'ombre, un peu plus dans l'obscurité des débutants, si on peut les appeler ainsi.
Messieurs, je vais vous demander chacun votre homme du match, qui vous avez envie de mettre en avant à l'issue de cette rencontre.
Oh bah moi j'en ai parlé déjà un peu, j'ai envie de mettre en avant Pitagus Ouakoula pour sa première au Michelin. Je crois que c'est le joueur qui a le plus porté le ballon, il a été dans l'avancée, au plaquage, je me rappelle, il met deux bons caramels à Dwayne Van Der Merwe en première mi-temps, l'international écossais, l'ailier. Il a montré qu'il était là et qu'il avait vraiment envie. Pitagus Ouakoula pour moi.
Toi Didier ?
Eh ben, je vais prendre un gars de derrière, Alex Newsome, qui marque 2 essais, qui a 10 plaquages à son actif, je crois 12 joueurs battus, et puis qui a été décisif, quoi. Donc pour un joueur des lignes arrières, c'est toujours important en termes de stats de se montrer et de montrer qu'on est là et qu'on est à la finition, quoi. C'est ce qu'on demande à ces joueurs là.
On parlera encore de challenge européen en toute fin de podcast, mais avant bien sûr on aura les top flops et tout de suite le débat, cette question: est-ce que Baptiste Jeuneau doit intégrer le groupe France? C'est la question que l'on se pose après la grave blessure de Baptiste Serin, qui sera indisponible pendant un bon moment et qui donc ne devrait pas faire le tournoi. Et donc la question pour
surtout du Antoine Dupont qui part.
Oui, excuse-moi, c'était intégré. En fait, tu as raison, il faut quand même me le rappeler. Et l'absence d'Antoine Dupont pour le tournoi, effectivement, ouais. Qui lui veut faire les JO avec l'équipe de France de rugby à 7. Et donc, la question d'intégration d'un nouveau de demi-mêlée en équipe de France. Est-ce que Baptiste Jeuneau doit-il être celui-ci, je vais faire le tour très rapidement. Didier, oui, non?
Doit, je sais pas, mais peu, oui, certainement, oui.
Ok, c'est pour ça que j'avais dit doit, hein, pour la question. Vas-y Arnaud.
Bah, il est en ballotage. Il est en ballotage avec un autre joueur, mais on va en parler.
Ok, on va en parler effectivement. Arnaud, il y aura une réunion cette semaine du staff de l'équipe de France à ce propos. Oui, à ce propos et à propos d'autres questions aussi. Mais...
Oui, c'est un nouveau staff avec Laurent Saint-Péret, avec Patrick Arletaz. C'est un nouveau staff qui se met en place, donc il faut qu'il se règle. Il faut que Fabien Galthié donne sa direction, ce qu'il veut vraiment. Ce qu'il veut vraiment faire pendant ces 4 ans. Et donc il y a le tournoi Destination là, qui arrive très bientôt maintenant, hein, c'est dans 2 mois à peine. Et donc oui, ils doivent forcément discuter de la liste des 42 joueurs qui seront appelés à préparer ce tournoi Destination, oui.
Ok, Fabien Galthié doit avoir une idée assez précise du demi de mêlée qu'il veut lui-même en ancien demi de mêlée. On imagine qu'il peut consulter son staff, mais il doit avoir une vision claire là-dessus.
Oui, bon, après, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises concernant les titulaires. À mon avis, Le Coup, qui était la doublure d'Antoine Dupont pendant la Coupe du Monde, devrait normalement être le demi de mêlée titulaire pour ce tournoi à Destination, d'autant qu'il sera associé à Jalibert à l'ouverture, selon toute vraisemblance. Donc, c'est une paire de demi qui se connaît parfaitement. Couillou devrait aussi logiquement être le numéro 9 remplaçant.
C'est ça, si on fait une photo des demi de mêlée de l'équipe de France, c'est Dupont en 1, Lucu et
numéro 2
avec Couillou
en numéro 3 et Serin. Mais le problème, c'est que Serin effectivement c'est gravement blessé à l'épaule ce week-end en Champions Cup. Il y a une grosse luxation qui est suspectée, peut-être une fracture, donc ça m'étonnerait qu'il soit dans les temps pour être convoqué dans le groupe des 42 joueurs. Ça sera début janvier, mi-janvier. Mi-janvier, vraisemblablement.
Donc ça veut dire Lucu et Couillou, les deux demi de mêlée, il en faut un troisième. Ok.
Et donc, ça devrait se jouer entre Le Garec, Baptiste Jeuneau, je pense, et...
Léo Colli.
Avec Léo Colli, non.
Léo Colli semble un peu en retrait. Là, ouais.
Ok, depuis bon, on va en parler, ouais.
On va en parler, ouais.
Ok, c'est parti. Baptiste Jeuneau, quels sont les arguments qui plaideraient en sa faveur pour vous?
Bah déjà, il a un passé international avec les U1, quoi. Il y a un titre de champion du monde, donc une expérience qui n'est pas celle des grands, évidemment, mais bon, c'est un tremplin, ça peut être considéré comme un tremplin aux yeux des sélectionneurs. Hein.
C'est en tout cas pour ça qu'il y a des sélections de jeunes. C'est pour, oui.
Normalement, oui, c'est même pour avoir si des... l'expérience montre que tous ne franchissent pas le cap et qu'il y en a assez peu qui franchissent. Mais du coup, lui.
Mais à la base, c'est bien d'avoir cette expérience.
À ce poste-là, bon, il a montré qu'il était, qu'il pouvait être influent, rayonnant et important. Donc, il a cette expérience pour lui, cet avantage pour lui, en tout cas. Oui.
Et puis, peut-être que Fabien Galthié a envie de construire un groupe pour la Coupe du Monde dans 4 ans. Donc on l'a vu sous sa précédente mandature, et sous sa précédente mandature, il n'a pas hésité à lancer des jeunes pour leur faire emmagasiner de l'expérience, pour leur faire emmagasiner un vécu international pour préparer cette Coupe du Monde 2023. Alors je pense vraisemblablement qu'il devrait faire pareil pour la Coupe du Monde 2027. C'est pas à 2 mois de la Coupe du Monde qu'on va appeler des jeunes, si vous voyez ce que je veux dire.
Je comprends très bien. Alors, si on exclut effectivement Léo Colli de l'équation, il reste Baptiste Jeannot, Nolan Le Garec. Vous voyez quelqu'un d'autre ou pas?
Non, ça va être
Ça va être entre les deux.
Ouais, avec une. Je pense qu'il y a une légère, il aura une légère préférence pour Le Garec.
Le Racing Man.
Le demi-mêlée du Racing, qui a déjà été appelé, qui était déjà dans le groupe des 42 avant la Coupe du Monde, et qui joue un peu plus ces derniers temps. Malheureusement, Baptiste Jeannot a eu quelques blessures là, en début de saison, et ça pourrait peut-être l'handicaper.
Ça pourrait être l'handicaper, ou au contraire, ça pourrait peut-être lui amener un peu de fraîcheur au moment décisif de janvier, parce qu'il va retrouver du temps de jeu, et il aura peut-être la fraîcheur que d'autres n'ont plus à ce moment-là. Ça va, donc tout ça va dépendre aussi de la forme que les uns et les autres auront aussi en janvier. On ne sait pas, du coup, comment il aura digéré, est-ce qu'il va pas avoir un coup de moins bien, des choses comme ça. Donc, effectivement, Le Garec semble partir avec un petit museau d'avance. Oui.
Alors, si je vous posais cette question vraiment complètement, c'est de la théorie, elle est purement théorique, mais si vous mettez dans la tête de Fabien Galthié et que vous décidez de prendre l'un ou l'autre pour
le préparer... On a pas envie de se mettre dans sa tête.
C'est un peu compliqué.
Exercice compliqué, Didier.
Je vais prendre un Doliprane et après on en discute.
Exercice très compliqué, effectivement. Si on se met à la place d'un sélectionneur, n'importe lequel, et qu'on se dit je réfléchis à la Coupe du Monde dans 4 ans, quels sont les arguments pour vous qui pourraient faire peser la balance en faveur de l'un ou de l'autre?
Mais déjà,
si on les compare en fait.
Déjà
si
dans 4 ans, alors on va reprendre le problème, on va revenir. Dans 4 ans, je ne suis pas sûr que Lucu est déjà un joueur qui a plus de 30 ans. Il a 30 ans, je crois, Lucu.
31, je crois, non, 30 ou 31.
On va vérifier,
Ouais, on va vérifier la régie, si vous pouvez vérifier ça. Non, mais dans 4 ans, Lucu sera plus âgé, donc ça laissera une place. Mais bon, il y aura Antoine Dupont aussi. Bon, bref.
Il a 30 ans là, Maxime Lucu.
Ouais. Mais c'était quoi la question déjà?
Il va sur ses 31 le mois prochain.
Oui, mais voilà. La question initiale, c'était quoi?
C'était si tu devais comparer les deux joueurs, qu'est-ce qui ferait peser la balance en faveur de l'un ou de l'autre? Quelles sont les qualités de l'un et l'autre et quels sont les défauts des uns et des autres, quoi?
Le Garec a un très bon jeu au pied. C'est un bon buteur fiable et ça peut jouer au niveau international.
Ouais.
Après Baptiste Jeannot a un côté dynamiteur un peu, fait penser un peu à Antoine Dupont des fois dans son jeu. Il n'hésite pas à prendre les intervalles près des rucks. C'est un mec qui n'hésite pas à porter la balle. Et on l'a vu pas plus tard que vendredi. C'est un mec, il est rentré, ça a dynamisé le jeu de l'équipe de Clermont.
Le Garec, il est un peu dans le même registre aussi, mais il est peut-être un peu moins, en termes de rapidité, de vitesse, un peu moins vif que Jeannot. A priori, je n'ai pas les stats précises. Mais...
Est-ce que si, alors sans se mettre dans la tête de Fabien Galthié, si tu dois réfléchir à un profil de demi-mêlée, tu ne serais pas du style à prendre un profil de demi-mêlée qui correspondrait à ton demi-mêlée titulaire, justement pour ne pas avoir à changer et ta philosophie de jeu, ta manière de jouer de ton équipe?
C'est pas ce qu'il a fait parce que Antoine Dupont et Lucu ont pas du tout le même profil. Lucu, c'est un demi-mêlée gestionnaire doté d'un très très bon pied. Il raisonne pas comme ça. Il y a Dupont qui est là en début de rencontre pour dynamiser, pour animer le jeu des Bleus, et Lucu en finisseur pour gérer justement les fins de match. Donc il raisonne comme ça, il prend pas des demi-mêlées de même profil.
Quand il le faisait rentrer, quand il y a eu beaucoup de matchs où il l'a pas fait rentrer.
Ouais, ou Dupont était titulaire 80 minutes, effectivement. Ouais. Ah, effectivement.
Donc si on se met aussi dans la tête de Galthié, il faut un numéro 2 qui accepte d'être vraiment un numéro 2 et de ne pas jouer très souvent.
Et ouais. C'est pour ça que Baptiste Serin n'a pas fait la Coupe du Monde, parce que Baptiste Serin n'accepte pas trop ce, selon les...
Ce rôle de remplaçant, de finisseur, voilà, de ce que tu
c'est
veux.
C'est ça, ouais.
Ouais, okay. Cet argument-là, quand même, de taper les pénalités, de taper les coups de pied, c'est important.
Ah oui, c'est important.
C'est important, mais bon, quand il y a un joueur comme Ramos avec soi, c'est moins inquiet, enfin c'est moins problématique. Quand on a un buteur qui affiche un tel taux de réussite, c'est moins problématique.
Vous pensez que c'est pas quelque chose qui va faire peser la balance dans la faveur de Le Garec?
Peut-être que Le Garec possède aussi un meilleur jeu au pied, oui, même si
dans le courant, quoi, tu veux dire.
Même si Baptiste Jounon a un bon jeu au pied, hein, c'est pas. Mais des fois, il lui arrive de faire des sorties moyennes là-dessus. Le Garec, il est constant.
Il est perfectible dans ce. Ouais. Il est très perfectible.
Le Garec est constant dans ce registre-là, dans ses sorties de camp, dans ses jeux au pied d'occupation derrière les rucks. Ouais, il est un cran au-dessus, peut-être là-dessus. Ouais.
Bah, je vais vous poser une question un peu terrible. Mais, est-ce que
la question qui tue.
Ouais, la question qui tue. Est-ce que le choix du demi-mêlée que va faire Fabien Galthié et que vont faire Fabien Galthié et son staff va décider de l'avenir international de l'un ou de l'autre? Parce que est-ce que ça les engage pas et l'un ou et l'autre sur un avenir international sur les 4 ans à venir ou pas?
Je suis pas sûr. On aurait fait la photographie du 15 du groupe des 42 à la sortie de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde 2019 et la photographie du groupe de 42 avant la Coupe du Monde 2023, je ne pense pas que ça soit.
Il n'y a pas grand chose à voir.
Ouais, non.
Il n'y a pas grand chose à voir.
Regardez l'an dernier, à la même époque, au janvier 2023, les trois demi de mêlée, c'était Léo Colli, Le Garec et Dupont. Ce n'est pas ceux qui ont fait la Coupe du Monde, à part Dupont. Donc, non, c'est pas. Il n'y a rien de gravé dans le marbre.
Est-ce que.
Mais le problème, bon, il reste Antoine Dupont. Quand il y aura Antoine Dupont, il n'y aura pas de discussion, il y aura déjà une place en moins.
Ouais, il n'y a pas photo, là.
Là, c'est une question beaucoup plus personnelle pour Baptiste Jounon que je vais vous poser. Est-ce que c'est préférable pour lui, à 20 ans, d'être appelé en équipe de France et peut-être de cirer un peu le banc pendant le tournoi, plutôt que de jouer avec l'ASM à ce moment-là?
L'expérience internationale est toujours profitable. Hein. De toute façon, la question ne se posera pas pour lui. Hein. S'il appelait, il fera qu'il y
ait. Ah, il ira, oui.
En plus, ça voudra dire qu'il a fait des bons matchs avec l'ASM aussi. Ouais, parce que, ce qui, pour l'instant, n'a pas été toujours le cas en ce début de saison, où il a été quand même un petit peu, hormis les blessures, il a un petit peu compliqué. La pression, un changement de statut, des responsabilités nouvelles. Tout ça fait que son début de saison n'est pas celui qu'il espérait, que le club espérait non plus. Mais bon, il a encore plus d'une demi-saison pour retrouver son niveau. Et ça partira de ses prestations en équipe avec l'ASM, de toute façon.
Oui, tout à fait. Il faut déjà qu'il enchaîne avec l'ASM, qu'il fasse des bons matchs, qu'il tire cette équipe vers le haut, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Hein. C'est un facteur X. C'est le genre de joueur qui est capable de tirer son équipe vers le haut, et c'est ce qu'on attend à Clermont. Et s'il arrive à faire ça avec Clermont, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas un avenir international avec l'équipe de France.
Et contrairement à la saison précédente, là, il aura la chance, enfin on espère, de pouvoir jouer derrière un pack qui sera plus dans l'avancée que l'an dernier. Donc, le paquet d'avant Clermontois
sera plus facile et plus intéressant.
Plus de garanties. Et c'est donc forcément plus facile pour la charnière, notamment pour le demi-mêlée, pour briller pour s'exprimer. Hein.
Donc pour conclure, si je vous suis bien, Le Garec avec un museau d'avance, et je reprends votre expression, et ce serait peut-être un poil trop tôt pour Baptiste Jounot, même si ce ne serait pas immérité.
Ça ne serait pas immérité. Moi aussi, s'il est dans le groupe des 42, il n'y a personne en France qui va dire oh, c'est pas normal.
Et pour un poil trop tôt, non. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tôt quand on a le niveau. Quoi. Je veux dire, quel que soit l'âge, si on a le niveau à 19, 20 ans ou même 30 ans, c'est pas grave. À partir du moment où on a le niveau, il faut. C'est quand on a le niveau. Enfin, les joueurs ont le niveau. Ne doit pas être un critère dans un sens ou dans l'autre.
Hein. Avec l'ASM, il a fait de bons matchs et il a été assez impressionnant eu égard à son âge. Pour l'instant, il n'a pas encore crevé l'écran. Je veux dire, il a pas.
Non, parce que je reviens à ce coordinateur. Il a eu la malchance d'évoluer derrière un pack l'an dernier qui était en souffrance.
Bien sûr.
Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que.
Pas favorisé par son équipe. Ouais.
Que ces éclats apparaissaient d'autant plus.
Intéressant.
Plus. Là, on fait une photographie de l'instant. Le Garec est peut-être un peu en avance par rapport à Jounot, mais pas guère beaucoup. Pagare beaucoup, je sais pas.
Pagare plus, c'était pas mal.
Pagare plus, ouais. Mais si Jauneau est dans le groupe de 42, ça sera pas un scandale non plus. Ça voudra dire que Galtier veut préparer, veut conditionner des jeunes joueurs de cette fameuse génération U20 qui a gagné avec les deux porteurs, avec les Gaëtons, etc. Il veut préparer ses joueurs pour le mondial de 2027, ça voudra dire ça. Voilà, s'il est appelé dans le groupe des 42, personne ne va lever le petit doigt en disant ouais, « c'est pas trop normal, non ».
Ok, merci, c'est très clair, on en sait un peu plus effectivement sur cette concurrence entre le Garec et Jauneau et la possibilité pour Baptiste Jauneau, pourquoi pas, d'intégrer le groupe France Actualité qu'on suivra bien sûr sur le site de La Montagne dans le journal. Juste messieurs, tout de suite, les top flops. Didier, top ou flop ?
Ça sera un top, moi ça sera un top pour Bayonne qui pour son premier match en Champions Cup a été allé chercher un bon nul chez les Irlandais du Munster, 17 partout tant que je me souvienne, oui c'est ça. Pas grand monde aurait parié sur cette équipe de Bayonne qui a réalisé l'une des belles performances pour un club français ce week-end où il n'y a pas eu tant que ça. Donc chapeau à cette équipe de Bayonne.
Ok. Alors, on est au top ou flop, toi ?
Eh bien, flop, et je vais me remettre dans la tête de Fabien Galtier il y a quelques semaines auparavant. En lisant les papiers la semaine dernière, les papiers ici et là dans les autres quotidien spécialisé en matière rugby et sportive, j'ai lu que Julien Marchand reprenait tout juste l'entraînement avec son club de Toulouse en début de semaine dernière.
Ouais.
Et je me suis interrogé de l'utilité pendant la Coupe du Monde de le conserver dans le groupe alors qu'il était blessé. Et on l'a vu, il a repris la compétition un mois et demi après la Coupe du Monde. Donc je trouve que la gestion des blessures pendant cette Coupe du Monde n'a pas été très opportune pour de la part du staff de l'équipe de France. Avant le quart de finale, le cas de la gestion de Julien Marchand était assez difficile. On disait il va revenir pour le 8e, il est parvenu. Pour le 8e, il va revenir pour le match de l'Italie, il est parvenu. Il va revenir pour l'Afrique du Sud, il est parvenu. Et finalement, on apprend qu'un mois et demi plus tard, il reprend juste l'entraînement avec Toulouse. Même s'il y avait une opération au genou qui a été prévue d'avance avec le Stade Toulousain. Enfin bref, c'était un joueur qui n'était pas en forme et je pense qu'il aurait mieux valu le remplacer par un autre joueur, peut-être pas du poste pour poste, mais tenter un coup comme l'avait fait l'Afrique du Sud avec un talonneur qui avait été blessé. Ils avaient rappelé André Pollard et le staff de l'équipe de France n'a pas fait ce choix et on a terminé la Coupe du Monde malheureusement avec un joueur blessé et qui a repris l'entraînement qu'un mois et demi plus tard. Et
avec un autre qui relevait d'une grave blessure, Gelon, dont on a vu qu'il n'était pas à son niveau. Quoi.
Ouais. Puis Antoine Dupont aussi, pareil, le quart de finale, il n'était pas très très en forme. Il a joué tout le match. Bon, je trouve qu'il y a eu un cas de la gestion des joueurs blessés qui n'a pas été évoqué dans le bilan de la Coupe du Monde. Et que je trouve qu'il porte à confusion.
C'est bien une de celles qui posait le plus de questions, ouais. Effectivement. Messieurs, pour terminer, je vais vous parler du match de l'ASM qui va venir la semaine prochaine. C'est donc le déplacement à Gloucester pour cette deuxième journée de challenge européen. Il l'annonce, Christophe Furios, comme une équipe qui n'a pas de résultat mais qui joue bien. On peut craindre pour les Clermontois, on peut être ambitieux pour eux.
Bah on peut craindre, je ne sais pas. Gloucester est allé s'imposer en Géorgie ce week-end.
Contre les Black Lions.
Black Lions, petitement. Donc,
16 à 10.
15 à 10,
oui. C'est ma nouvelle correction de vue de près. Et c'est 15 à 10, oui, c'est ça.
Donc, bon, c'est pas trop ce que veulent ces Géorgiens, mais bon, ils n'ont pas été très dominateurs quand même.
Hein, en tout cas, Gloucester, pardon, mais en premiership en championnat d'Angleterre, c'est 6 défaites d'affilée.
6 défaites, oui, ils restent sur 6 défaites en championnat. Donc, leurs résultats ne plaident pas en leur faveur. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein.
Ça veut dire, Arnaud, qu'on attend de Clermont qu'ils aillent s'imposer là-bas ?
On peut se dire qu'il y a un coup à faire, en tout cas.
Ouais.
Ça serait carrément même une déception s'ils n'allaient pas gagner là-bas.
Si, c'est beaucoup plus clair, Didier, effectivement.
Oui, à mon sens, oui, dans la mesure, par rapport aux ambitions que les joueurs et du coup le staff affiché à les perdre à Gloucester, ça serait déjà compromettre un bon classement final et peut-être par la même aussi compromettre une place peut-être pour, parmi pour avoir un huitième de finale à la maison, mais ça serait aussi une déception, c'est sûr.
Et sachant que si si la SM finit dans les premières équipes au bilan général, a peut-être la chance de faire huitième, quart et demi-finale à la maison. Donc, et ça, c'est vraiment pas négligeable.
À tout point de vue, c'est sportif, financier, populaire. C'est quand même des éléments importants.
Et bon, on suivra bien sûr l'actualité de l'ASM qui se déplace donc à Gloucester en Angleterre. Ce sera le week-end prochain. Merci, messieurs.
Vendredi soir.
Vendredi soir, merci. Merci, messieurs. Très bonne semaine à vous.
Bah ouais.
Et puis à la semaine prochaine.
Et bah parfait.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Au revoir.
Ciao. Ciao.